I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. C'est Esther au micro, et aujourd'hui c'est Jérémy qui va évoquer son parcours avec moi. Vous le connaissez peut-être via son compte Instagram, les stories de Jérémy, sur lequel il parle entre autres d'environnement. Mais il a plus d'une corde à son arc, et on va donc parler écologie décoloniale, intersection et convergence des luttes, et même élections municipales. Oui, à ce sujet, l'épisode a été enregistré à un moment où l'on ne soupçonnait pas encore vraiment le report du second tour. Mais même si on ne connaît pas encore sa date finale, ce qui se dira ici n'est pas obsolète, loin de là. Bref, place à la discussion. On reviendra sur tous tes engagements, mais pour commencer, t'aurais pas une réussite à célébrer ces jours-ci ?
Une belle réussite. C'est vrai qu'on est un peu touché par ce qui vient de se passer. On a lancé un projet avec Annabelle, qui est un reportage qui s'appelle « Décolonisons l'écologie ». Qui a pour objectif d'aller en Martinique pendant 9 jours, où on ira à la rencontre de toutes celles et ceux qui luttent pour la décolonisation, qui ont des luttes écologistes. On a entendu parler, ça fait 40 ans qu'on en parle, mais ça c'est de nouveau arrivé dans le paysage médiatique en France, le chlordécone en Martinique, où 92% des Martiniquais sont contaminés au chlordécone, ce qui est un pesticide extrêmement puissant. Donc on va aller là-bas. On va aller à la rencontre des meneurs et des meneuses de grève, on va aller à la rencontre des activistes, des ouvriers qui sont victimes. Et on est aujourd'hui, je crois, à 144% de financement.
Allez !
C'est juste un truc de malade, quoi. On est super heureux, on est content aussi parce que cet argent revient aussi au collectif des ouvriers et des ouvrières, donc c'est super important.
Donc, juste pour situer Annabelle, qui a une chaîne IM sur YouTube. Et donc, moi, je me demandais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui vous a mené à avoir envie de lancer ce projet ?
La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en tant que personne racisée, dans le mouvement écolo, on était très très peu représentés, très très peu invités aussi. A fortiori pour Annabelle, non seulement elle est racisée, mais en plus c'est une femme. Et donc on se rend compte qu'on a trop peu notre place, alors que les personnes racisées sont parmi les premières victimes de la crise écologique.
Est-ce que tu pourrais expliquer ça ? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache.
Par exemple, on peut donner des exemples. En France, on ne fait pas ces statistiques-là. Mais aux États-Unis, on se rend compte que les personnes racisées sont plus souvent les habitantes à côté des décharges, où il y a des produits toxiques. Elles sont 38% fois plus exposées à du dioxyde d'azote, par exemple, selon les quartiers où ils vivent. On peut parler aussi des différents rapports du GIEC. On voit que les zones qui sont situées entre les deux tropiques vont être les plus soumises à de nouvelles intempéries plus intenses, et c'est ces zones qui correspondent soit à l'Afrique subsaharienne, aux Antilles, à tout ce qui est Asie-Pacifique, etc., donc, où les personnes racisées sont majoritairement présentes, quoi. Donc c'est en cela qu'elles sont aussi les premières victimes de la crise écologique. Ça se passe aussi, comme on le voit en France, avec le chlordécone, où les populations martiniquaises et guadeloupéennes, 95% des personnes vivant en Guadeloupe sont infectées au chlordécone, et 92% en Martinique, donc c'est juste tout le monde, c'est juste hallucinant. Partant de ce constat-là, on s'est dit, mais en fait, si personne ne parle de nous, on va parler de nous-mêmes. On a pris contact avec les militants en Martinique, et militante. On a commencé à enquêter sur ce qui se passe, etc. Et on s'est dit, on va y aller, en fait. On va y aller, on va rapporter tout ce qui se passe. Et d'autant que tout récemment, France 3 a tenté de faire un reportage sur le chlordécone et a été, on va dire, largement influencé dans le choix des personnes interviewées par les industriels là-bas, sur place, au détriment des ouvriers victimes du chlordécone. Donc il y a aussi une sorte de censure, qu'on peut le dire.
C'est-à-dire ils ont demandé aux journalistes de parler
Absolument. En fait, dans un premier temps, je pourrais... Enfin, c'est Canubis qui tient un blog sur Mediapart qui rapporte très bien ce qui s'est passé. France 3 avait pris contact dans un premier temps avec les ouvriers, le collectif des ouvriers victimes du chlordécone, pour les interroger, pour avoir des témoignages. Suite à ça, les journalistes de France 3 ont rencontré ce qu'on appelle des béquets. Béquets, ce sont les descendants des premiers colons aux Antilles qui aujourd'hui contrôlent l'économie des Antilles. Par exemple, le groupe Ayotte, c'est une des plus grandes fortunes de France qui est implantée en Martinique. Donc les journalistes ont contacté le groupe Ayotte. Qui leur ont dit non, allez pas voir cette personne-là, allez plutôt voir tel agriculteur pour recevoir grosso modo le bon témoignage qui dit que voilà, c'est pas si grave que ça, quoi. Donc c'est très orienté. Donc on va aussi là-bas pour rapporter une autre version de l'histoire, une autre version des faits. Encore tout récemment, ce vendredi par exemple, il y a un procès d'un activiste martiniquais qui a subi énormément de violences policières durant son arrestation, des coups, des oreilles au point de plus sur les oreilles au point de ne plus entendre, dans les côtes, etc. Il a pas pu voir un médecin lorsqu'il a été mis en garde à vue, on l'accuse d'outrage sur agent dépositaire de l'autorité publique et rébellion, etc. Il n'est absolument pas coupable de ces faits et pourtant son procès c'est bien ce vendredi là, donc les Martiniquais et Martiniquaises se mobilisent aussi. Donc c'est tout ça qu'on veut rapporter, dont on ne parle pas ici en France, et qu'on aura à cœur de mettre en lumière. Quoi.
Ok, donc vous y partez 9 jours, là, en avril,
c'est quoi. Ça, début avril, on part 9 jours, ça y est, c'est financé. On va sûrement faire un nouvel objectif de cagnotte, parce qu'on a eu un peu le syndrome de l'imposture, et de savoir si on était capable de faire ça. Donc on a complètement sous-évalué le projet, il y a des frais. Enfin pour l'instant on ne mange même pas, quoi, parce qu'on n'a pas compté ça. Parce qu'on avait peur que ça ne se réalise pas, on ne savait pas si les gens allaient nous suivre. Et puis on avait aussi à cœur de qu'il y ait des dons pour l'association. Aujourd'hui, il y a, je crois, près de 1500 euros déjà pour l'association, ce qui est énorme. Parce que, pour te donner une idée, le fonds de trésorerie de l'association, c'est 30 euros. Tu vois, donc c'est juste énorme pour l'association. C'est génial. Et puis il y a des ouvriers qui n'ont pas les moyens parfois, ni de se soigner, ni de manger, etc. Parce qu'elles ont travaillé pour ces entreprises béquées. Ils et elles ont travaillé pour ces entreprises béquées. Qui ne les ont pas déclarés. Donc ils ont des très petites retraites allant de 200 à 700 euros par mois. Et donc c'est très très peu et c'est très délicat pour elles, ne serait-ce que pour se faire dépister le chlordécone, pour savoir le taux qu'on a dans le corps. C'est plus de 170 euros, c'est pas remboursé par l'État. Donc c'est juste hallucinant. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de collecter pour l'association aussi, quoi.
Et du coup, le fait de le faire par crowdfunding, c'était aussi un choix pour rester indépendant.
Absolument, parce que l'exemple que j'ai cité juste avant était assez lourd de sens, quoi. Je pense que ça confère aussi une vraie légitimité, parce qu'on n'est pas des journalistes. Donc quand on va rencontrer des personnes qui peuvent être un peu dérangées par les questions qu'on va poser, en disant « mais vous n'êtes pas journaliste, vous êtes qui ?» Mais en fait, on est soutenu par des centaines de personnes qui veulent savoir ce qui se passe, en fait. Et donc il n'y a aucun moyen de pression sur nous de nous dire si vous dites ça, moi je vais en parler à votre rédac ou quoi. Non, en fait, il n'y a que nous qui allons maîtriser ce qui va sortir. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir cette indépendance là au vu du contexte là-bas, quoi.
J'ai l'impression que tes combats, ils sont un peu t'es un peu un défenseur de la convergence des luttes.
Absolument, enfin c'est je le dis souvent, en fait, l'écologie c'est seulement un prisme. C'est seulement un angle par lequel on peut s'attaquer à un système qui est capitaliste, patriarcal, colonialiste, et on peut mettre tellement d'objectifs là-dedans, tellement c'est destructeur pour le vivant. Et il ne faut surtout pas oublier ça, quoi. Sans convergence, on n'arrivera pas à en finir avec ce système, on n'arrivera pas à imaginer autre chose, parce que tout se situe à l'intersectionnalité de tous ces mouvements, qu'ils soient féministes, décolonialistes, écologistes ou d'autres. C'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir s'attaquer frontalement et de manière 360 degrés à ce système qui, parce qu'on n'en peut plus, en fait, parce qu'on n'en peut plus. Et parler d'écologie décoloniale, c'est vraiment au cœur de la lutte intersectionnelle, à la fois antiraciste, afroféministe, écologiste, et décolonial forcément. Donc on a vraiment à cœur de montrer l'importance de la convergence, parce que faut pas rester de manière dans son précaré. Moi c'est l'écologie, moi c'est ceci, moi c'est cela. C'est super important qu'on soit tous ensemble.
C'est ce que j'allais dire. Souvent, même les gens, avant de s'engager, les personnes qui se disent « Ok, je veux m'engager, mais en fait, je ne sais pas quel combat choisir parce qu'il y en a trop et je ne sais pas par quel bout le prendre. » En fait, ça, c'est un moyen de ne pas choisir.
C'est ça. En fait, je pense qu'il faut, peut-être choisir le sujet ou l'environnement dans lequel on est le plus à l'aise, parce qu'on le connaît mieux, etc. Mais ne pas oublier que c'est un... Comment dire, c'est 360 degrés, quoi. C'est quand on choisit de parler d'écologie pour s'attaquer à un système capitaliste et patriarcal, etc., c'est juste une porte d'entrée. En fait, c'est une porte d'entrée dans laquelle on va se dire, ok, quand je milite pour l'écologie, mais j'oublie pas que c'est ce même système qui entraîne des féminicides, c'est ce même système qui a poussé à la colonisation, c'est ce même système qui détruit le vivant, qui exploite les animaux, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait, on a choisi de faire passer avant le profit devant le bien-être du vivant, humain ou non humain. Et c'est ce même système qui est extrêmement majoritairement, si ce n'est exclusivement, dirigé par des hommes, ce qui implique évidemment de reléguer la quasi-totalité des femmes dans la manière dont on prend des décisions, dans les décisions qui sont prises, etc. Le contre-exemple parfait, c'est la commune du Rojava, où par exemple les femmes ont un droit de veto sur toutes les décisions qui sont prises pour elles. Il y a des binômes femmes-hommes à toutes les instances de décision. Donc c'est ce même système qui est dirigé par des hommes, qui a fait le choix du profit devant le vivant. Et donc faisant ce choix-là, a décidé pourquoi est-ce qu'on n'irait pas coloniser des terres, parce qu'on a besoin de plus de ressources pour faire plus de profit. Et donc ça s'est organisé comme ça depuis... des lustres, on peut reparler du commerce triangulaire, de la traite des esclaves, etc. Et aujourd'hui, on est à un moment où c'est pour ça que, avec Annabelle, on se dit que voilà, effectivement, aujourd'hui, le mouvement écolo n'a pas totalement décolonisé sa pensée, parce que on peut pas mettre en avant le fait que aujourd'hui, on est dans un système où l'humain est prioritaire sur le vivant ou la nature, mais que parmi les humains, il y a encore des humains qui dominent d'autres humains. Donc c'est des hommes qui dominent des femmes, des blancs qui dominent des noirs, et on peut en citer des centaines, quoi. Donc c'est l'enjeu de la convergence, il est essentiel, quoi. C'est le cœur de la lutte, il est dans la convergence, quoi.
Ok. En vrai, je pense que c'est important de le dire, parce que c'est aussi des choses qui sont assez admises dans certains cercles militants, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment limpide pour tout le monde, pour les personnes qui ne militent pas encore, qui ne sont pas activistes, etc.
C'est clair, j'ai un exemple, je le dis souvent, au début j'étais gêné de le dire, mais maintenant je le dis parce que ça me semble tellement évident. Je suis intervenu sur justement les municipales et la transition écologique dans un lieu très connu du mouvement écolo, et un autre intervenant était là pour parler d'un reportage qui est également, je crois, en financement participatif, qui s'appelle « Douce France », et qui raconte comment des jeunes du 93 s'intéressent au projet Europa City et comment on va les amener à comprendre l'enjeu de cette lutte-là pour eux, pour leur avenir. Et donc ça m'a beaucoup ému parce qu'effectivement, pour la première fois, je voyais des personnes racisées qui étaient autre chose que, une autre image que la violence policière, que la misère dans les banlieues qui existe. Mais aujourd'hui, on n'a pas su produire d'autres reportages ou d'autres films que ça depuis La Haine. Ça fait La Haine, ça a 25 ans, je crois, un truc comme ça. Par là, quoi. Et on est resté dans cet angle-là. Donc, il a décidé de changer d'angle. Et j'étais très ému de voir ça. Donc, je l'ai remercié et j'ai pris la parole. Je dis voilà, moi, en tant que personne racisée, j'enlève ma casquette d'écolo. Voilà. Vous me voyez en tant que personne racisée. Je suis la seule personne dans les intervenants et dans le public à être racisée. Donc, posez-vous quand même la question. Et à la fin de l'intervention, il est venu me voir. Mais pourquoi tu parles de ça? Je vois pas le rapport, en fait. Je vois pas en quoi ça a un lien avec l'écologie. T'aurais pu ne pas le dire, quoi. Et ça m'a, je suis resté un peu bouche bée, quoi. J'ai pas su réagir tout de suite, tellement ça m'a touché dans ma personne, en ce que je suis vraiment, de mon identité, quoi. Et d'où la nécessité de me dire non, mais c'est pas possible, quoi. On peut pas nous ignorer comme ça encore, quoi.
Merci pour les explications. On va voir un peu comment t'en es arrivé, parce que j'imagine qu'une pensée comme ça, ça pop pas un jour dans la tête. Ah, ça y est, j'ai tout compris. Mais du coup, j'aimerais bien revenir un peu à l'origine de tes combats. Est-ce que tu te souviens de ta première indignation ?
Ma première indignation ? Oh là là, il y en a eu tellement.
Tu peux en parler de plusieurs ou pas la toute première, si ce n'est pas celle-ci qui est la plus pertinente pour toi.
La toute première indignation. Ouais, enfin, il y en a. C'est plus un contexte. En fait, je suis asthmatique. Et depuis la naissance, je suis asthmatique. Alors, je ne suis pas asthmatique à l'effort quand on fait du sport, je suis asthmatique à tout ce qui est pollen, acarien, tabac, pollution, etc. etc. Et donc, plus jeune, encore je dis, c'est-à-dire, j'avais une profonde aversion pour les gens qui fumaient, en fait. Parce que qui dit fumer dit crise d'asthme pour moi, mais direct, quoi. Je suis allé à l'hôpital je ne sais combien de fois, j'avais des piqûres de cortisone tous les jours, enfin bref, voilà. Et donc, ça m'arrivait fréquemment de m'énerver, mais vraiment en pleurer, quoi, quand il y a des gens qui fumaient et que j'étais là dans une pièce confinée. Et je leur disais, mais voilà, je suis asthmatique en fait, et j'ai pas envie de bouffer ou de fumer. Et alors certains comprenaient parfaitement, il y avait aucun problème, hein, et d'autres, non mais en fait, je suis libre. C'était l'argument, quoi. Je suis libre de faire ce que je veux, etc. Je suis chez moi ou voilà, etc. Et quand t'es asthmatique, une odeur de fumée, tu la sens à 150 mètres, quoi. Tu la respires, etc. Tu l'inhales. Et donc toute ma jeunesse, ça m'a marqué, quoi. Et de là à dire que c'est ce qui a fait le déclic, je sais pas. Forcément, ça y a contribué dans la manière dont je me suis construit. Je me suis tout de suite intéressé à ce que à notre atmosphère, à la pollution, etc. Enfin, combien de fois j'ai été dispensé de sport parce qu'il y avait des pics de pollution ou ce genre de choses. Donc c'était quelque chose sur lequel j'étais extrêmement vigilant, quoi. Et puis c'est que plus tard, en fait, j'ai lu un livre. Je devais avoir, 20 ou 21 ans, un truc comme ça. J'ai lu un livre de Hervé Kempf, qui est aujourd'hui ancien journaliste du Monde sur l'écologie et qui a fondé le média Reporter. Et son livre, c'était « Fin de l'Occident, naissance d'un monde ». Et il y a une phrase, mais toute bateau, hein. Enfin, quand je vais la dire, on va dire « mais normal, Jérémy ». Mais le fait de la lire comme ça, de manière aussi limpide, ça m'a fait « pouf ». Et il dit dans son livre, chaque produit, enfin, j'ai plus les termes exacts, mais chaque produit consommé, créé, entraîne une destruction des ressources naturelles au moins équivalente. Je dis, mais putain, mais tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on produit tous les jours, en fait, tout ça, à chaque fois, il y a une partie de la planète qui est détruite et son vivant avec. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Et ça fait pouf dans ma tête, c'est juste un truc de ouf. Et c'est à partir de ce moment-là, je dis, mais non, mais c'est plus possible, c'est pas possible. Maintenant, je sais pas si j'ai conscience de totalement des enjeux. Je pense que tout le monde sait aujourd'hui, parce qu'on est quand même... accablé d'informations partout. Enfin, maintenant, c'est quand même un sujet public. Je pense qu'on est la première génération où l'écologie devient un sujet public vraiment aussi médiatisé. Et c'est une bonne chose. Mais savoir, c'est pas forcément avoir conscience. Je pense qu'on est tous au courant qu'il y a des enjeux. Mais en avoir conscience, c'est-à-dire être réellement persuadé que ce qui va arriver va avoir un impact sur nos vies directement, je pense qu'on ne l'est pas tous. Je ne le suis pas moi-même. Je pense que si on était tous conscients, je pense qu'on serait tous dans la rue en train de manifester et faire des actions. Mais c'est un chemin, c'est un cheminement, la prise de conscience, et on le fait à la mesure de ses moyens et de son temps aussi. Donc c'est toutes ces petites étapes qui ont participé un peu à ma prise de conscience pour aller jusqu'à l'activisme aujourd'hui, quoi.
Entre les prises de conscience en lisant des livres ou par rapport à tes propres problèmes de santé et l'action concrète sur le terrain, il y a quand même un pas. Il y a beaucoup de gens, moi, dans mon entourage, qui ont des idées et qui, d'ailleurs, ne savent pas comment s'engager. Toi, ça a été quoi le déclic pour te dire « Ok, aujourd'hui, je passe à l'action ». C'est ça, mon premier engagement concret.
C'est le jour où je me suis dit « Rien ne me fait plus peur que l'avenir, en fait ». C'est-à-dire que j'ai, à un moment donné... c'est vraiment un cheminement, je ne peux pas dire qu'il y a un déclic. À un moment donné, on se dit « Voilà, en fait, qu'est-ce que je risque ?» Je ne veux pas dire que je risque rien, mais... qu'est-ce qu'on a à perdre ? Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que de sauver nos vies, en fait ? Je ne sais pas à quel moment je me suis dit, ok, je me rappelle des toutes premières actions que j'ai faites, c'était des trucs bidons, j'étais tout seul, j'allais dans mon village, j'allais... parce que j'avais lu un truc sur le fait que ça serait bien qu'on colore les rues, qu'il y ait de la couleur plutôt que du gris partout et tout, et mentalement c'était cool et cool, machin. Je me dis, putain, mais je vais écrire des trucs en couleur sur les rues, quoi. Et à l'époque, c'était pour parler de la crise des réfugiés syriens qu'on ne voulait pas accueillir. Donc j'allais taguer des trucs sur la rue et tout pour que les gens passent et lisent et tout, etc. Et c'était la toute première. Et j'étais tout seul, hein, j'ai fait ça, mes parents ne le savent même pas s'ils écoutent ça. Ils disent, sérieux, c'était toi. Donc voilà, il y a peut-être 4 personnes qui ont vu ce message. Donc voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, non, c'est que beaucoup plus tard. Hein, l'activisme est arrivé beaucoup plus tard, je pense, à partir de, je sais pas, 25 ans, quelque chose comme ça. J'en ai aujourd'hui 27. Donc c'est arrivé vraiment plus tard où je me suis dit, en fait. Bah fuck quoi, je veux dire, ok, bah si je suis en garde à vue, si il m'arrive quelque chose, etc. En fait, j'ai le sentiment que ce que je fais est juste, en fait. À partir du moment où je suis convaincu que c'est juste, même si c'est pas légal, je vais parfois m'engager à le faire parce que c'est pas que moi qui est concerné, c'est énormément de gens et c'est tous et toutes, en fait. Et puis advienne que pourra, quoi, on aurait essayé, quoi.
Donc là, tu abordes entre les lignes la désobéissance civile, etc. Mais oui. Avant d'en arriver là, je pense que tu as loupé une étape. Désolée, tu ne vas pas passer à travers.
Oui. Alors,
en plus, c'est important parce que c'est la période. Cet épisode sera diffusé entre les deux tours des élections municipales. Donc, alors, je pense que c'est important que tu parles...
2014, d'une... c'est ça ?
Voilà, de 2014.
2014, donc j'habitais dans un petit village de, à l'époque, entre 900 et 1000 habitants. Donc, il y a des élections qui se profilent et on me contacte pour être sur une liste. Alors, sur les petits villages comme ça, déjà, c'est compliqué de faire des listes. Il n'est pas question de partis politiques. Les partis politiques ne sont pas présents dans des villages de cette taille-là. Donc, c'est sur un commun d'idées, un commun de valeurs qu'on se rassemble. Est-ce qu'on est OK pour faire ça, etc. Et donc, on me propose d'être conseiller municipal. J'ai, à l'époque, je dois avoir 21 ou 22 ans, quelque chose comme ça. Donc, je suis le plus jeune de la liste. Je suis un peu l'enfant du village, quoi. J'ai toujours vécu là. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont du village, et mes parents, évidemment. Et donc, on est élu. La liste complète est élue dans cette petite commune de Seine-et-Marne. Où, à l'époque, je m'occupe de... On m'avait délégué à la jeunesse, à la com et à l'écologie, déjà. j'essaie de mettre en place un certain nombre de choses. Et c'est une expérience qui durera 2 ans. Parce qu'ensuite, j'ai 2 ou 3 ans, je crois. J'ai démissionné parce que j'ai déménagé, en fait. Et ça a été, honnêtement, d'avoir... Dans les petites communes comme ça, c'est une expérience super intéressante parce qu'on a vraiment les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'on n'a pas des services administratifs et techniques pour nous appuyer, pour nous aider. Il y avait 2 personnels de mairie, je crois, un agent d'entretien et une secrétaire de mairie. Donc, il faut tout faire. Faut tout organiser de A à Z, les événements, etc. Donc, j'ai énormément appris. J'ai énormément compris les enjeux au niveau local, quoi, de ce qu'on pouvait faire au niveau local. Faut savoir qu'un maire a quasiment la possibilité de tout faire sur sa commune. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les enjeux des municipales sont extrêmement importants en termes de transition écologique, si on imagine une transition et rien de moins radical. Et ça a vraiment été une expérience super enrichissante à cet âge-là, à mon jeune âge, quoi, qui m'a construit aussi un peu dans la manière dont j'abordais la chose publique aussi, qui m'a un peu aussi découragé parfois, mais qui m'a beaucoup appris, ouais, en tout cas.
Et tu t'es pas du tout posé la question quand on est venu te chercher de est-ce que je suis légitime ou est-ce que je suis capable ?
Pas cette fois-ci, pas cette fois-ci parce que est-ce que je suis capable si je me suis posé la question ? La légitimité, non, parce que j'avais 22 ans, ça faisait 22 ans que j'étais dans le village, donc je connaissais parfaitement, je connaissais les enjeux, je connaissais à peu près tout le monde, et voilà. Est-ce que je suis capable ? Ouais, je me suis posé la question parce que je connaissais pas totalement l'environnement dans lequel j'allais me projeter, qu'est-ce que j'allais devoir faire concrètement ? Est-ce que j'allais avoir le temps de ça ? Et puis, pour changer, j'étais la seule personne racisée, évidemment. Donc ça aussi, ça... Et puis il y avait non seulement le côté racisé, puis je suis jeune. Je suis jeune face à des vieux, on peut se le dire. Mm-hmm. Hein. Et ça a souvent joué.
Ça fait face à beaucoup de fractures générationnelles, des choses que tu défendais et que les plus vieux ne comprenaient pas ?
Complètement. Complètement des fractures générationnelles et même des fractures éthiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est passé le maire en place qu'on avait élu. Et Élie, pardon. Élie, j'ai un doute.
Qu'on avait élu.
Élie, c'est ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal en français. C'est pas mal. Et, on avait pour projet de refondre un peu la com du truc, du village, avec un nouveau logo. Donc on a demandé à un graphiste bénévole qui par chance habite sur la commune, qui souhaitait faire ça depuis des années, donc on a travaillé avec lui sur les orientations du truc, il nous a fait 3 propositions de logo, et on en a retenu 2, et puis les deux derniers, on les a soumis à l'approbation des gens du village. Quoi. Donc il y avait à la fois la possibilité de voter en ligne, et venir en mairie en disant je choisis ce logo, etc. Puis un jour je me rends compte, donc je suivais le résultat des votes, et il fallait que un jour avant, quoi, je vois que fallait que je regarde s'il y avait un logo qui se démarquait largement d'un autre pour qu'on ait le temps d'imprimer et de présenter le logo le lendemain. Quoi. Et c'était le cas. Mais dans le logo qui n'avait pas reçu l'approbation de tous, je vois qu'il y a 9 votes d'une même personne. Je me dis, mais comment c'est possible ? 9 votes d'une même personne et 9 votes, etc. Et je ne vais pas citer le nom de la personne, c'était le maire en question, qui préférait l'autre logo, qui a voté 9 fois. Alors je dis, mais comment il a fait pour ne voter 9 fois ? Parce qu'on ne peut voter qu'avec une seule adresse. Alors il a pris son adresse perso, celle de sa femme, celle de sa fille, celle de son taf, celle de... Et je dis, mais c'est hallucinant. Et j'ai appelé ma collègue qui s'occupait avec moi de suivre la votation. Et je dis, mais en fait, je l'ai appelé, il n'a pas répondu, etc. Je lui ai laissé un message en disant, en fait, rappelle-moi tout de suite parce que ça ne va pas le faire. Et il me rappelle, je manque l'appel, il me laisse un message, non mais c'était pour rigoler, etc. Blablabla. Mais je partais à Angers à ce moment-là pendant un week-end. Je lui dis, il y a une chose, je reviens, s'il ne démissionne pas, je quitte mon poste de conseiller municipal. C'est hors de question que je reste avec cette personne comme ça. Et donc ça s'agite un petit peu, je dis, Jérémy, tu ne peux pas revenir plus tôt, on fait une réunion de crise, etc. Machin. Je reviens et j'explique, mais en fait, tu te fous de la gueule de qui ? En fait, il y a des gens pour qui c'est super important, qui ont voté en espérant que leur choix soit pris en compte. Toi, tu votes 9 fois, ça n'a pas d'incidence, heureusement, mais tu votes 9 fois, en fait, et tu penses que c'est drôle, en fait. Et cette personne est responsable d'un établissement scolaire. Et je dis, quand tu as des jeunes qui trichent à un examen, qu'est-ce qui leur arrive, en fait ? Donc moi, c'est hors de question que si je reste, c'est que tu pars. C'est pas plus compliqué que ça. Et j'ai eu le soutien d'autres adjoints, etc., qui m'ont dit, si Jérémy part, je pars aussi. Donc, heureusement, ça m'a soutenu, mais il m'a reproché. Mais en fait, il m'a dit à la fin, donc il a fini par accepter de démissionner. Et donc, on a élu un autre maire. Il a accepté de démissionner en me disant, mais tu verras plus tard, en grandissant, tu mettras de l'eau dans ton vin. Tu vois. Et je dis, mais si plus tard, en grandissant, je deviens comme toi, jamais de la vie, en fait. Et c'est la jeunesse n'a rien à faire avec les questions d'éthique, etc. Et c'est un tort qu'on a souvent. On le voit avec l'expression OK boomer, quoi, qu'on a de discriminer les jeunes sur leur engagement en leur faisant croire qu'ils sont pas capables ou pas légitimes ou qu'ils ont encore des choses à apprendre, etc. C'est absolument faux. L'âge n'a rien à voir avec la compétence ou l'engagement ou la légitimité. Donc je l'ai appris ce jour-là. Ça s'est bien fini heureusement parce qu'il a démissionné du coup. Mais voilà.
Sacré ride. Et qu'est-ce que tu as appris d'autre ? Enfin, concrètement, c'était quoi ton quotidien de conseiller municipal ? Parce que, encore une fois, là, on va être dans l'entre-deux-tours. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui... Et même moi, d'ailleurs. Je ne sais pas forcément quels sont les rouages d'un conseil municipal.
Alors, c'est beaucoup de réunions, déjà, entre nous, beaucoup d'arbitrage. Au niveau d'une petite commune comme c'était, c'est beaucoup de choses pratico-pratiques. Mais nous, on se réunissait les lundis soirs et les samedis matins, 2 fois par semaine. On passait en revue ce qui s'est passé dans la journée, puis on réfléchissait sur les projets à venir. Quoi. L'organisation d'une petite commune n'a rien à voir avec une organisation d'une commune d'au moins plus de 10 000 habitants. Mais c'est très important parce qu'en France, on oublie souvent que 80% des communes ont moins de 2 000 habitants. Donc c'est le cas pour beaucoup de gens. Donc concrètement, bon, après on a un calendrier de manifestation à l'année où on regardait voilà, ce qu'il fallait préparer. Et puis il fallait aussi définir le cœur d'une commune, c'est le vote du budget. Hein. C'est définir où est-ce qu'on va, à quoi on va dédier l'argent chaque année sur la commune. Pour une petite commune comme c'était le cas, l'enjeu c'est avant tout d'assurer ses compétences qui sont obligatoires, c'est-à-dire l'eau, la voirie, la restauration scolaire, etc. Et c'est très délicat, surtout dans un contexte où l'État coupe dans les budgets des collectivités. L'important pour, donc, pour le coup, dans une petite commune, on n'a pas trop l'occasion ni l'opportunité de développer d'autres projets au-delà de nos compétences obligatoires. Il faut déjà assurer le strict minimum. On avait des réseaux de canalisation d'eau, est-ce qu'il y a énormément de fuites à refaire, ce genre de choses. Donc on n'a que très peu l'occasion dans les petites communes de s'engager vers la transition écologique. On peut faire des choix dans le cadre de nos compétences obligatoires qui nous y poussent, mais des projets qui sont hors de ça, c'est très très compliqué pour les petites communes. Dans les plus grosses communes, on a loisir de faire à peu près tout. Il faut savoir que le maire il a la compétence pour la restauration scolaire, donc savoir si on met du bio, si on met moins de viande, si on met du local, etc. Tout ça, c'est le maire. Les pistes cyclables, c'est le maire. Protéger les espaces naturels, c'est le maire via son plan local d'urbanisme, c'est ce qu'on appelle comme ça. Enfin, tout, les énergies renouvelables, il peut en faire sans sa commune. Enfin, tout est possible via le pouvoir du maire. Donc, c'est très, très important qu'on ait des alliés dans les villes, même si, en affinant ma pensée, je suis davantage partisan municipalisme libertaire. Si on peut y arriver un peu plus vite en ayant des alliés dans les mairies, on ne va pas s'en priver, quoi.
Va falloir définir municipalisme libertaire.
Oula.
Expliquez au moins un peu l'idée qui se cache derrière ce terme.
Bah, c'est l'idée qu'il faut arriver à la plus petite échelle de décision, en fait. L'idée qu'au local, tout va se jouer et en finir avec l'illusion qu'un État hyper centralisé peut décider d'une seule et même voix pour les 36 000 communes de France, avec des variétés de populations, de territoires, d'enjeux aussi complexes et variés les uns les autres. Ça, c'est une illusion. C'est clairement une illusion. Et donc, il faut revenir à une décision au niveau local, où c'est pas des élus qui prennent la place des citoyens pour prendre des décisions. Ça peut se faire en assemblée générale. Il y a une myriade de méthodologies pour prendre des décisions collectives qu'il ne faudrait pas s'en priver. Donc c'est un peu ça le municipalisme libertaire. Je ne pourrais pas étayer, il faut encore que j'affine aussi ma propre pensée, mais il y a un très bon livre de Murray Bookchin. Bookchin, je ne sais jamais comment on prononce son nom, qui s'appelle Municipalisme libertaire, justement, qui est très intéressant. Et voilà, l'idée, c'est ça. Quand on voit surtout que, par exemple, là, il y a une récente loi qui est en train de passer, ou qui est peut-être déjà passée sur le fait qu'on va sanctionner davantage les habitats légers, qui sont donc des habitats qui sont hyper résilients, qui font tout pour ne pas nuire à la nature, etc. Le maire va avoir pouvoir de demander leur destruction et avec des montants de pénalités par jour où la destruction n'est pas entamée, qui sont juste mirobolants, sans passer devant un tribunal. Donc c'est vraiment des décisions très arbitraires. Et dans les communes où l'écologie n'est clairement pas une priorité, c'est vraiment un risque pour ces habitations qui sont juste des exemples à suivre en termes de résilience. Il y a un très bon article de Laurie Deboeuf sur la relève à la peste à ce propos que j'encourage à lire.
Je mettrai tous les liens des livres, articles, etc. dans la description du podcast pour que les gens puissent aller jeter un œil et affiner leurs pensées également. Par rapport à ce que tu dis sur l'échelle d'action locale, tu t'es lancé un défi récemment, oui, que tu as appelé le défi vélo. Et j'aimerais bien que tu en touches deux mots aussi, parce que tout à l'heure, tu l'as abordé, le fait que les maires sont responsables, notamment pour les pistes cyclables. Voilà.
Alors clairement, on n'est pas du tout au rendez-vous des pistes cyclables en France. Spoiler alert. Ouais, je me suis lancé un vélo. Je me suis lancé un défi au début du mois, et non pas un vélo, qui est d'aller sur mon lieu de travail tous les jours à vélo, donc 5 jours par semaine. Alors je me suis mis des jokers, hein, parce qu'on reste humain, et puis parfois on n'a pas envie, parfois il pleut, puis parfois on a d'autres choses à faire, etc. de pouvoir prendre les transports en commun ou juste avoir la flemme, en fait, parce que c'est OK d'avoir la flemme et de ne pas toujours aller à vélo. Et donc jusqu'au deuxième tour des municipales, justement. Bah, l'idée, c'est aussi d'inciter les maires à comprendre bien cet enjeu qui est la mobilité à vélo. Où aujourd'hui, on se rend compte, je vois sur la communauté d'agglomération où j'habite, il y a près de 50% des gens qui prennent leur voiture pour faire moins d'un kilomètre. Voilà quoi. Et il y a presque autant, entre 40 et 50, je crois, qui lorsqu'ils travaillent sur la commune où ils habitent, prennent quand même leur voiture aussi pour y aller. Alors il y a 1000 raisons pour lesquelles on peut prendre sa voiture, hein, si on a d'autres trajets à faire après, si on est une personne à mobilité réduite, ou, voilà. Mais ça ne concerne pas la grande majorité des gens. Donc c'était aussi l'idée de sensibiliser à ça, de dire que si moi je traverse 4 villes et je fais 20 km pour aller à vélo...
Matin et soir,
parfois de nuit, c'est possible, c'est parfois possible de le faire sur des plus courtes distances aussi. Donc c'était essayer voilà, de d'éveiller un peu, en tout cas de sensibiliser à l'intérêt de cette mobilité en ville surtout. C'est clair que c'est pas pour traverser 50 villes non plus le vélo, mais dans son territoire, dans ce qui est dans son environnement immédiat, de prendre son vélo, d'y aller à pied, en transport, etc. Et que c'est OK. Ce sur quoi je veux rebondir, c'est que c'est pas forcément accessible pour toutes et tous. Il faut déjà avoir un vélo aussi. Mais moi, par exemple, j'ai fait voler mon vélo. Voilà, je me suis fait voler mon vélo. Donc j'ai récupéré le vélo de mon grand-père qui est pas en super état, qui est en train de me lâcher. Mais bon, ça devrait le faire. Puis aussi repenser notre rapport au temps. C'est-à-dire que moi, si j'allais en voiture au travail, je mettrais 20 minutes. Là, je mets 1h10 en gros pour aller au taf. Mais quel plaisir, quoi, en fait. Quel plaisir de se lever. Mais même quand il pleut, ça ne me dérange pas parce que c'est tellement agréable. Et c'est un des rares moments où, en fait, je me suis concentré sur mon corps, sur mon esprit, et où je pense à des projets, etc. Et je ne pense pas du tout à mon travail. Je ne suis pas stressé, en fait. J'arrive au taf, je suis super lucide, j'arrive mieux à me concentrer. Et bien que mon temps de trajet soit plus long, et ben je suis moins fatigué. Je rentre chez moi, je suis moins fatigué. Je fais des trucs quand je rentre chez moi que je ne faisais pas avant parce que ben après la journée de travail, rajouter le stress de 20 minutes en voiture, et puis je rentre chez moi, je suis crevé. Et ben là, en fait, je suis plein d'énergie. Voilà.
Paradoxalement.
Ouais.
Je te posais cette question parce que j'ai l'impression que ça accompagne ta démarche de réorienter ta manière d'agir. Comment est-ce que tu gères ton militantisme actuellement ?
Il y a des hauts et des bas. Je ne cache pas qu'en début d'année 2020, il faut savoir qu'avec Roxane de Dear Lobbies, on travaille beaucoup ensemble. C'est une amie, c'est une sœur, c'est une partenaire, je n'aurais même pas de qualificatif pour la nommer. On s'était fixé pour l'année 2020 de faire cette année l'année de toutes les luttes parce qu'en 2020, c'est une des dernières années où on va pouvoir essayer d'infléchir la trajectoire qu'on est en train de prendre en matière d'écologie et de réchauffement climatique. Et on s'est dit, bon, 2020, c'est l'année où on tente tout, quoi. On essaye tout, on y va. Quoi. Et donc on s'est dit ça en fin d'année 2019 et en début d'année 2020, on a eu beaucoup de militants à qui j'échange, on a eu un moment de down, mais complet, on voulait rien faire. Enfin, moi, j'ai pleuré 2-3 fois en disant, mais on va pas y arriver. Comme le sentiment de porter une certaine responsabilité, de se sentir seul parfois dans cette lutte-là. Donc c'est vraiment des cycles, en fait. Donc l'idée de m'engager davantage est toujours présente. J'ai jamais fait autant d'actions de désobéissance civile ou de manifs ou de projets que depuis ce début d'année 2020. Donc l'engagement est toujours là. On a parfois le sentiment d'être un microcosme qui porte une cause seule, et parce que aussi on est parfois pas soutenu par notre entourage aussi, parce que être prêt à prendre ces risques là, bah, parfois ça fait peur à des proches, certains médias tentent de nous décrédibiliser en disant que c'est ignoble ce qu'on fait. Je pense notamment à l'action qu'on a fait chez BlackRock avec Youth for Climate, où oh là là, ils ont tagué des murs chez BlackRock. Mais attendez, en fait, BlackRock est le premier responsable de la déforestation. En fait, de quoi on parle, quoi ? Est-ce qu'on peut comparer ça, quoi ? Heureusement, on a été soutenu aussi par d'autres personnes. Ça, c'est pas le souci. Mais voilà, faut toujours qu'on fasse attention à la charge que ça représente pour nous en termes d'investissement émotionnel aussi. Donc on se soutient, mais on n'oublie jamais que c'est un cycle. Et là, je sais que je suis au haut de mon cycle, je suis très en forme, mais à un moment donné, ça va chuter. Il faut le savoir, il faut l'appréhender. Ça permet aussi de mieux se connaître ses limites. Donc faut pas s'engager à faire des choses dont on sait qu'il pourrait avoir des répercussions émotionnelles, mentales, qu'on ne pourrait pas supporter. Hein. C'est OK. Mais on ne demande pas à tout le monde d'être activiste ou quoi. On demande à tout le monde d'être OK avec ce qu'on fait. Quoi. Voilà, la résistance, elle n'arrivera pas quand tout le monde sera activiste. Parce que si tout le monde l'est, c'est qu'il n'y a plus besoin de résister. C'est qu'on est tous OK et on change tout. Quoi. Si on veut vraiment changer les choses, il ne faut non pas que tout le monde vienne à résister. Tant mieux hein, si tout le monde vient. Mais que tout le monde soit OK avec ce qu'on fait, en parler à son entourage. T'as vu, c'est plutôt bien, c'est juste, etc. C'est ça qui est important aussi pour convaincre. Quoi.
J'ai deux questions. D'abord, comment tu gères ces périodes où t'es pas bien, où t'es découragé, en fait, d'après ce que je comprends. Et ensuite, j'aimerais bien que tu développes un peu quelle forme prennent tes actions actuellement. Tu as parlé de Youth for Climate, de désobéissance civile.
Dans ces moments down, étrangement, alors, je suis convaincu que ce n'est pas avec les gestes du quotidien, le zéro déchet, le végétarisme, qu'on va radicalement changer la face du monde. Cependant, je suis quand même végétarien, j'essaye d'aller vers le zéro déchet, etc., parce que c'est extrêmement important pour ma santé mentale, en tout cas personnellement à moi. Donc dans ces moments-là, où j'ai le sentiment de ne plus pouvoir agir en termes d'activisme, où je me dis « putain, mais ça ne sert à rien voilà. », je me raccroche à ces trucs un peu du quotidien qui me permettent d'organiser un peu ma vie. Quoi. Alors, c'est pas toujours évident, mais c'est des petites touches-là qui me permettent de donner un peu de confort mental, finalement, dans ces moments qui sont un peu creux. Donc je me raccroche à ça. Mais la chose qui est importante à dire, c'est aussi que ces gestes-là, je les encourage pour chacun qui veut y aller, parce que c'est, encore une fois, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, mais c'est important pour notre santé mentale, et c'est parfois la première marche de l'escalier vers l'activisme et vers des choses un peu plus radicales. Mais ces gestes-là sont aussi très excluants, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les classes populaires, j'entends parfois dans le mouvement écolo dire que voilà, les classes populaires ou les personnes racisées ne s'intéressent pas à l'écologie, que c'est pas leur priorité, qu'on n'arrive pas à faire venir les gens des banlieues, etc. Machin. Quand on est dans une classe populaire, quand on a d'autres priorités que de penser à réduire ses déchets ou devenir végétarien parce que sa priorité c'est d'abord de se loger, de se nourrir, de se soigner, que ça prend un temps monstre, mais un temps de dingue de déconstruire sa pensée dans un environnement qui nous pousse à penser autrement, dans un environnement où on a accès quasiment instantanément à la malbouffe, qu'elle est moins chère. C'est extrêmement difficile de décoloniser sa pensée, en fait, c'est tout simplement ça. J'attire l'attention sur ce sujet-là parce que on reproche à beaucoup de gens de ne pas être l'écolo parfait. Faut savoir que un humain parfait écologiquement, c'est un humain mort, donc faut arrêter de chercher cette perfection qui fait des contorsions mentales à n'en plus finir. L'enjeu sera dans la lutte libre à celui qui pense que ça lui fait du bien d'aller vers les gestes du quotidien parce que c'est important pour soi et parce que voilà, c'est aussi parfois le premier pied à l'étrier, mais l'enjeu est dans la lutte, et la lutte dans la rue, elle est beaucoup moins excluante pour les classes populaires et les personnes racisées, donc c'est super important aussi. Voilà. Et il y avait une deuxième question que j'ai oubliée.
Qui se rapportait, en fait, je vais y revenir, mais je pense qu'effectivement c'était hyper important de dire tout ça. J'ai une question cependant, je trouve que la lutte dans la rue, elle peut avoir aussi une dimension excluante, parce qu'il y a des gens qui se sentent pas en sécurité dans la rue, pour plein de raisons, parce que parfois, en tant que femme, on peut ne pas se sentir, parce que en tant que personne racisée, on peut être plus sujet aux violences policières, parce que la foule nous angoisse, etc. Je me permets juste de le préciser, parce que ces derniers jours, il y a eu notamment le 8 mars, et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Je suis désolée, je viens pas manifester, mais je me sens pas et tout. »
Le 8 et le 7 mars, la veille.
Absolument. Le 7 mars aussi, et en fait, c'est pas grave. faut faire ce dont on se sent capable de c'est faire, ça. Je pense.
C'est ça, faut pas se sentir. Enfin, on est tous légitimes pour agir. On est tous. Enfin, la base pour être légitime, c'est d'être humain, et on est tous légitimes pour agir. Maintenant, c'est OK, en fait. C'est OK si on n'a pas envie d'y aller. C'est OK si on ne se sent pas le courage ou l'envie de manifester pour toutes les raisons qui peuvent décourager. Et il y en a. Et il y en a, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est pour ça que je disais, l'important, c'est de soutenir, quoi. Si on n'est pas à même de pouvoir s'engager davantage, parce qu'on n'a pas l'esprit ou le temps mental disponible ou le temps physique pour le faire aussi, c'est OK, en fait. Faut pas culpabiliser, parce qu'on est dans un environnement qui, à la fois pénal, social, économique, qui nous pousse à ne pas vouloir agir. Donc on n'est pas responsable de ça, en fait. En tant qu'individu, on subit ce système qui est là pour nous oppresser, en fait. Et donc c'est OK si on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas tous les clés. Enfin, c'est un système qui nous prive de ces clés-là pour agir. Donc il ne faut surtout pas culpabiliser de ça, parce que comment dire, c'est pas normal, mais c'est malheureusement, quoi, ça arrive, quoi.
Mmh. En tout cas, merci, parce que ça me parle pas mal aussi, la notion de cycle. Et enfin, moi, ces derniers jours-là, j'étais vraiment au fond avec une colère dont je ne savais pas quoi faire. Et voilà. Mais la preuve, ce matin, ça va mieux. Donc, c'est que ce sont des cycles. Et je pense que c'est vraiment important de se le rappeler. Voilà, qu'il y a des moments où ça ne va pas, il faut prendre soin de soi. Et ensuite, on revient, on est plus d'attaque. Pour en venir justement à, quand tu es d'attaque, c'est quoi les formes que prennent ta mobilisation actuellement ? Parce que du coup, tu n'es plus conseiller municipal, tu vas vers le municipalisme libertaire, etc. Tu parles de désobéissance civile, ça fait beaucoup de choses.
Il y a plusieurs moyens d'agir, en fait. Il y a des choses qu'on peut faire strictement personnellement. Alors, je suis rattaché à aucune association, aucun mouvement écolo pour la désobéissance civile, etc. Je suis freelance, entre guillemets. Donc, les dernières actions que j'ai faites, c'était avec Youth for Climate. J'en ai fait aussi de manière indépendante avec un collectif d'activistes. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire qu'on peut, quand on le souhaite, on peut aussi mener sa propre action, quoi. Ça va des choses un peu. Ça peut aller des choses un peu toutes bêtes, quoi. L'année dernière, j'avais imprimé un ticket de caisse Gap dans lequel j'avais mis le vrai coût d'un t-shirt Gap en rajoutant tous les produits toxiques qui sont utilisés, voilà combien ça coûte, l'esclavagisme, voilà combien ça coûte, la pollution des eaux, voilà combien ça coûte, etc. Donc d'un t-shirt 19 euros chez Gap est devenu un t-shirt à 450 euros, quoi. Donc c'est un faux ticket Gap que j'ai imprimé et que j'étais accroché à tous les t-shirts du magasin Gap le plus proche de chez moi. Donc c'est des petites choses comme ça qui permettent d'éveiller, et si ça a permis de décourager certaines personnes d'acheter un t-shirt chez Gap en se rendant dans le magasin.
Ça m'intrigue. Comment tu fais pour rentrer dans un magasin, accrocher ça sur tous les t-shirts Gap sans que on vienne te dire non mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Personne ne va. J'ai essayé de faire ça le plus discrètement possible en mettant les tickets en évidence. Mais je faisais semblant de vouloir acheter quelque chose, tout simplement. Et on est venu me voir. Hein, on est venu, monsieur, vous cherchez quelque chose en particulier et tout. Donc j'ai faim de vouloir acheter un truc. Je crois que c'était avant les périodes de Noël, je crois, un truc comme ça. Et pendant peut-être 20-30 minutes, j'ai eu le temps d'accrocher sur les cintres tout. Enfin, beaucoup de mes faux tickets de caisse. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Il y a aussi, on peut aller après dans des choses un peu plus prenantes en termes de temps. Il y a pas longtemps, avec d'autres activistes, on a organisé un affichage sauvage autour du ministère de l'économie pour dénoncer les, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 140 activistes écolos qui ont été tués l'année dernière. Parce qu'il défendait un projet qui luttait contre la déforestation ou contre la pollution des eaux ou contre un forage minier, etc. Faut savoir que il y a pas d'âge pour ça, en fait. Ces militants qui ont été tués ou assassinés, il y en a beaucoup plus que 140, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on ne peut pas retracer, sont d'âges divers et variés, quoi. Et donc on a fait ça toute une nuit pour coller sur tous les spots. On a même fini par coller par la sur le ministère. Je ne voudrais pas le dire, mais bon, voilà. Donc tout ça, c'est des actions. Et puis plus récemment, après, on a aussi organisé, enfin, Youth for Climate a organisé ça, une action, l'action de blocage de BlackRock. Donc ça, voilà, c'est des choses aussi qui prennent plus de temps, qui génèrent aussi plus de risques, mais qui étaient importantes pour, voilà, c'est pas, on parle souvent d'un système qui est responsable, mais derrière ce système, il y a des gens, il y a des entreprises qu'on peut nommer, qu'on connaît. Malheureusement, on connaît trop souvent le visage des victimes et peu des criminels. Donc c'était important pour nous d'aller aussi là-bas pour mettre la lumière sur qui sont les vrais responsables, quoi.
Sur ce cas-là, BlackRock, est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi vous avez choisi cette cible-là et qu'est-ce qui s'est passé pendant votre action? Comment ça s'est déroulé?
En fait, pour être tout à fait honnête, ce n'était pas la première cible. Simplement, il y a eu des fuites dans l'organisation de cette action qui fait que sur la première cible, les policiers étaient déjà présents. Donc il a fallu se réorganiser très très vite pour aller du coup chez BlackRock, qui ne s'attendait pas à avoir cette joyeuse venue. et donc ça s'est fait très très vite. Il y a eu plus d'une centaine d'activistes qui ont réussi à rentrer chez BlackRock et on a barricadé le lieu. On a tenu le lieu pendant 3-4 heures, quelque chose comme ça. Où on a BlackRock était le plan B parce que, bah, comme je disais, c'est à la fois, là aussi on est dans la convergence des luttes, hein, sûrement certainement un des premiers bénéficiaires de la réforme des retraites que le gouvernement essaye de faire passer, en tout cas celui qui oriente vers cette réforme des retraites dont personne ne veut.
Pourquoi?
Parce que BlackRock est aussi BlackRock c'est un gestionnaire de fonds en fait, qui gère de fonds de grosses entreprises, de gros assureurs aussi, qui vont bénéficier du système à points en fait, que de la réforme des retraites. Je ne pourrais pas aller plus dans les détails de ce côté-là parce que c'est super technique et je ne le maîtrise pas suffisamment. Et puis c'est aussi le gestionnaire de fonds d'entreprises comme Total, comme la Société Générale, qui est un des premiers établissements bancaires pollueurs en France et dans le monde. Et donc BlackRock gère l'argent pour ces gens-là et place l'argent avec ces gens-là. Et ce qui est intéressant, c'est que au cours de l'action de blocage, on a eu l'occasion d'aller à la rencontre des dirigeants de BlackRock qui étaient sur place, qui se sont enfermés dans leur bureau pour pas nous parler, pour pas nous voir, parce qu'on est des dangereux écolo-terroristes, pas du tout. Mais bon, on a réussi à rentrer quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont dit que vous, par votre action là, ce que vous faites aujourd'hui, vous nous empêchez, nous BlackRock, de faire la transition écologique. À cause de vous là, on ralentit notre travail pour changer la planète. C'est texto ce qu'il m'a dit. J'étais halluciné, quoi.
Vous ne voyez pas ma tête, mais je suis perplexe.
Ah non, mais j'en revenais pas. Et donc on leur a expliqué, on a parlé quand même pas mal de temps avec eux. C'était très calme, on a vraiment eu le temps de parler avec eux. On leur a expliqué, voilà ce qu'on vous reproche, voilà ce sur quoi on aimerait que vous cessiez vos activités. Je veux dire, aujourd'hui, ce qu'on leur a dit, c'est que choisir, c'est renoncer à un moment donné. Donc, quand vous choisissez d'investir l'argent dans la déforestation ou avec Total, etc., vous renoncez à l'investir dans des projets qui seraient beaucoup plus vertueux écologiquement. Parce que leur argument, c'est de dire, mais c'est grâce aux gestes du quotidien, et si tout le monde a une gourde, on va vraiment changer la planète. C'est leur premier argument. Le deuxième, c'est que, mais regardez, Total, ils ont quand même une fondation où ils investissent pour des projets écolos. Donc voilà, on est sur des gens qui n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe, quoi. C'est encore une fois, c'est ce qu'on pouvait dire au début. Et peut-être qu'ils savent l'urgence, mais ils n'ont pas conscience parce qu'ils sont, ils sont dans des milieux qui sont assez privilégiés et épargnés de cela. Et puis ils sont manifestement dans un déni très avancé sur ce sujet-là. Et on a fini par sortir parce que la BRI menaçait d'intervenir sur le truc. On n'était pas assez pour tenir plus longtemps. Et puis parce que on a dit ce qu'on avait à dire, on a fait ce qu'on avait à faire. Malheureusement, on a eu quand même des militants qui ont été interpellés et mis en garde à vue pendant plus de 48 heures après cette action-là, qui sont aujourd'hui sortis, heureusement. Hein. Mais voilà, ça en dit long sur l'état de déni que peuvent avoir ces entreprises-là Et c'est grave parce qu'aujourd'hui, ils concentrent à la fois tous les moyens d'investissement. Ils sont pieds et poings liés avec des responsables politiques qui prennent des décisions. Donc c'est très compliqué de défaire ce système-là. Et c'est pour ça que aller vers un municipalisme libertaire, revenir à l'échelle locale où les lobbies sont moins présents, je veux dire, quand on a un État centralisé, c'est très facile pour un lobby, il n'y a qu'une porte à frapper. Tu tapes au ministère de l'économie, tu tapes à l'Élysée, à Matignon, et tu as accès à tous les postes stratégiques pour influencer les décisions. Les lobbies ne sont pas capables d'envoyer un représentant dans les 36 000 communes de France. Donc il y a énormément d'enjeux au niveau local parce qu'on est moins, au niveau local, on est moins perméable aux lobbies. C'est très important de réinvestir l'échelon local.
Tu parles de tout ça, mais au final, on n'a même pas parlé trop de ton compte Instagram,
oui.
Qui est une autre manière quand même de te mobiliser. Tu fais de la sensibilisation, en fait.
C'est ça. J'essaye d'aborder des sujets qui sont parfois déjà connus ou qui sont parfois un peu moins, en essayant d'apporter, de vulgariser un maximum ce qui peut se trouver dans des rapports, dans des études, etc.
Mais c'est important de préciser que tout ton travail est sourcé à chaque fois. Il y a toujours le nom du rapport, le nom de la recherche, du livre dans lequel tu as trouvé l'info.
C'est ça. J'ai vraiment à cœur de tout sourcer, etc. Parfois, je reçois des commentaires. Ouais, mais ce chiffre est faux. En fait, produit une étude de 400 pages. Et je ne parle jamais pour moi dans mes stories. C'est systématiquement la parole de scientifiques, de chercheurs, de sociologues et de chercheuses, etc. De biologistes et enfin j'en passe quoi que je rapporte donc j'ai vraiment à cœur de tout sourcer parce que c'est un sujet qui est très 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 important où on peut pas se permettre du tout de balancer des chiffres qui viennent de nulle part et heureusement devant l'urgence de climatique et écologique les chercheurs produisent énormément de recherches. C'est très très rare. Là, j'avais fait il y a quelques temps maintenant, j'avais fait une story pour expliquer ce qu'est la théorie de l'effondrement. En faisant mes recherches, j'ai essayé de brasser un peu tout le panel de conséquences écologiques qui peut y avoir sur la fonte des glaces, sur la déforestation, sur l'imperméabilisation des sols. Et je me suis rendu compte que, et je pense que c'est un fait très rare, que tous les rapports que j'ai pu prendre datent de moins de 2 ans en fait. Et donc c'est un sujet qui est extrêmement documenté et très récent que les chercheurs et chercheuses investissent. Et de toute façon, les scientifiques sont les premiers à le dire. On a eu combien d'appels de scientifiques à l'urgence climatique depuis 2 ans? Je me rappelle celui des 15 000 scientifiques, je crois, en 2017 ou 2018, qui appellent les gouvernements à prendre des décisions. Et tout récemment, les scientifiques qui appellent à la rébellion. On en est là, quoi. Donc ouais, j'ai vraiment à cœur de sensibiliser et de rendre accessibles ces documents-là. Et ça va dans la vague du reportage qu'on prépare avec Annabelle, c'est d'aller s'attaquer à des sujets qui sont très peu médiatisés ici en France, sur lesquels il y a une espèce de chape, de non-dit, alors qu'aux Antilles, c'est des choses qui sont quand même assez documentées, où des chercheurs et chercheuses travaillent dessus. Nos contacts sont en train de faire aussi un recueil de témoignages, donc c'est aussi important de ça aide à prendre conscience quoi, en mettant des mots sur ces choses là ça aide vraiment à prendre conscience de la nécessité à la fois d'agir et de revoir le système dans lequel on vit quoi.
Et pareil, tu l'as lancé comme ça un matin, tu t'es levé.
bah en fait à la base c'était vraiment un Instagram perso où je postais des photos qu'on peut tous le faire la plupart du temps quoi. Et puis c'est dans cette idée là que 2020 c'est vraiment l'année où il faut tout faire. J'ai supprimé toutes mes photos. J'en avais peut-être 20 ou 30, j'ai tout supprimé. Et j'ai dit maintenant, ce compte-là, il va être utile. En fait. Il va être utile pour moi parce que ça me permet aussi de me documenter, de faire des recherches. Donc ça me permet de lire et de comprendre de nouvelles choses. Et puis je me suis dit, mais en fait, il faut que ça soit utile. Je veux dire, mais à quoi ça sert que les gens... C'est un avis tristement personnel. Hein. À quoi ça sert que les gens sachent que ce matin, j'ai fait un tour en vélo, et j'ai mangé une pomme. Je me dis, mais est-ce que ça je veux dire, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. J'ai envie que le temps passé sur mon compte soit utile à quelque chose, quoi, même si c'est parfois peu de choses. Hein. Mais je me suis dit, je vais essayer d'être utile. Et ça a commencé par là. Quoi. Je me suis dit, je vais réorienter ce compte-là pour qu'il serve à quelque chose. Si la personne passe 10 secondes dessus et qu'elle a pu apprendre un truc, tant mieux. Quoi. C'est cool. Quoi.
Mais tu dors parfois ?
Non, le jour. C'est vrai que ça occupe beaucoup, mais en ce moment, je dors mieux, mais c'est le vélo. C'est le vélo, ah. Je dors beaucoup mieux que le vélo. Mais c'est vrai qu'on dort peu, surtout dans les moments de creux, on dort pas beaucoup, mais on se répète tout le temps que pour mieux lutter, il faut bien se reposer. Donc il faut caler vraiment des temps de sommeil. Mais j'arrête pas de réfléchir et ça m'énerve des fois. Je vais couper le cerveau et puis parfois des crises d'angoisse aussi. Donc, et puis parfois des idées, on se lève, on note et tout, on envoie des messages aux copains, aux copines. Mais faut trouver du temps pour dormir. Mais ça va, en ce moment, ça va. En ce moment, ça va. Je pense que c'est le vélo. Je vais continuer après la fin du mois, je pense.
du coup, t'arrives pas trop à faire pause, quoi, si je comprends bien. C'est, en gros, tes causes, c'est ton quotidien.
C'est difficile d'éteindre la machine, quoi, en fait. En fait, quand j'éteins la machine, quand j'essaye de me dire, OK, là, tu prends du temps pour toi, t'oublies 5 minutes de la lutte, etc., bah, je culpabilise très vite, en fait. Je me dis, mais en fait, je fais des trucs là, mais Jérémy, il y a urgence, en fait. Et vraiment, quand je prends des temps de repos, quand je vais chez ma famille et tout, je déconnecte, etc., et puis ça revient comme un compte à rebours dans ma tête qui s'accélère et moins je fais de choses, plus ça s'accélère et je me dis en fait je peux pas rester là juste à rien faire. Ok, je passe un bon moment, mais combien de personnes sur Terre sont en train de passer un mauvais moment à cause de ce qui se passe, on peut parler de toutes les misères du monde, pas seulement écologique, et je dis je peux pas rester là à rien faire, je peux pas rester là à kiffer ma life. Donc il faut faire très attention à ça parce que c'est très prenant. Donc c'est vraiment personnel, hein, je sais pas si c'est le cas pour d'autres. Donc j'ai du mal à me reposer. Il faut, parce que sinon on va pas tenir longtemps si on n'arrive pas à trouver du repos.
Ouais, en parallèle, t'arrives quand même à conscientiser le fait que c'est important.
C'est clair, c'est ça. Donc ça m'aide à trouver des temps de repos quand même. Donc il faut. De toute façon, on n'a pas le choix que de. Faut vraiment essayer de jongler entre les moments de repos, les moments de calme et ceux qui sont liés au militantisme et à l'activisme, parce que l'un sans l'autre, on peut très vite se griller, finir en burn-out militant, enfin, on en parle de plus en plus. Donc faut trouver ces temps de repos, c'est important. Quoi. Et puis le repos, c'est super important pour lutter contre le capitalisme. Il y a un super compte qui s'appelle Nap Ministry qui encourage à faire la sieste partout où vous voulez parce que ça ralentit l'économie, donc faites des siestes. Voilà.
Ok, merci. J'aimerais bien, pour terminer, que... Ok, si je suis une jeune personne qui cherche à s'engager, mais qui ne sait vraiment pas par où commencer, c'est quoi ton conseil ?
Je pense que le conseil, c'est déjà d'en parler autour de soi, voir auprès de ses amis, ses proches, s'il y a des gens qui seraient intéressés pour agir avec toi, quoi, parce que... C'est délicat d'agir seul, quoi. Et puis, agir au niveau local, c'est-à-dire dans sa ville, dans sa commune, parce que parfois, on concentre... Enfin, les actions les plus médiatisées sont celles qui se situent dans les grandes villes, mais il y a énormément d'enjeux dans sa propre commune, dans son propre territoire. Donc, c'est essayer de voir voilà, ce qui, dans ton entourage et dans ton environnement, qu'est-ce qui ne va pas. Passer par des voies... légales si elles peuvent être efficaces, et si jamais elles n'aboutissent pas, réfléchir à quel type d'action c'est pas l'action la plus risquée qui rapporte le plus de victoires, hein. C'est vraiment quel type d'action pourrait répondre à l'objectif que je me fixe de, par exemple, éviter que ici on construise un bâtiment qui va ne servir à rien, par exemple. Voilà, ça peut être des choses très très simples et parfois même pacifistes, en fait. Simplement occuper un terrain et le cultiver avant qu'il ne se construise, ça empêche souvent la construction d'un bâtiment. Sans aller jusqu'à la ZAD, ça peut être un premier pas. Je prends l'exemple du TEP, c'est le terrain d'écologie populaire, un truc comme ça, qui se situe à côté du cimetière du Père-Lachaise à Paris, où il y avait un projet de complexe immobilier. Ils ont occupé le terrain, ils ont fait de la permaculture, ils ont fait des activités d'éducation populaire. Et aujourd'hui, je crois que le projet est en train d'être abandonné. Ça fait plusieurs mois, peut-être plus d'un an qu'ils occupent ce terrain-là. Et c'est devenu un vrai terrain d'écologie populaire, en fait. Et c'est super intéressant. Donc vraiment, au niveau local, il y a plein de trucs... à faire. On peut organiser le blocage d'une rue pour sensibiliser à une chose, etc. Il faut finalement assez peu de personnes pour bloquer une rue dans une ville. Donc vraiment, c'est d'en parler à son entourage Et auquel cas, si on se sent prêt à aller plus loin, etc., bah, se rapprocher aussi des mouvements qui organisent ce genre d'action, parce qu'il y a besoin de militants, il y a besoin d'activistes sur les actions, qui sont organisées régulièrement. Tout est sur leur compte Instagram ou sur leur site internet. Mais l'enjeu au niveau local, c'est vraiment si on peut agir en petite communauté pour son propre territoire, il y a vraiment des choses à faire comme ça, quoi.
Je pense que tu vas inspirer un certain nombre de personnes. Et avant de terminer cette interview, est-ce que toi, tu saurais me citer une personne qui t'a inspiré à agir ?
Une personne qui m'a inspiré à agir ? Voilà, franchement. Bah, je suis d'origine martiniquaise. Mon père est martiniquais, je suis métisse. Ma mère est de Seine-et-Marne. Et on m'a reproché souvent d'être insolent quand j'étais petit, un peu toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est un peu une espèce de culture de la révolte et de l'injustice que m'a transmise ma mère. Et quand c'est pas juste, on y va en fait, on s'en fout, on y va. Et donc j'ai l'impression que dans mon éducation, on m'a énormément transmis ça, qu'il faut se lever contre les injustices. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Donc je saurais pas citer une personne, mais je dirais mes parents quand même, parce que ils ont créé en moi un terreau fertile pour accueillir l'activisme, pour accueillir cet esprit de vouloir changer les choses. Et c'est aussi l'idée de ce reportage, en fait, le chlordécone, comme je disais, la plupart des Martiniquais en sont touchés. C'est un pesticide qui produit énormément d'effets neurotoxiques, reprotoxiques et cancérogènes. Et mon père a énormément de problèmes neurologiques. Et donc c'est la boucle qui se ferme finalement en disant voilà, vous m'avez donné l'envie d'agir. Eh ben, je vais essayer d'obtenir réparation pour vous, entre guillemets. Si on arrive à ça, ce sera un truc de ouf. Mais voilà, j'ai essayé de lever les zones d'ombre sur ces sujets-là. Sans aucun doute, ouais, c'est mes parents qui m'ont donné la force d'agir, je pense.
Eh ben, merci beaucoup, Jérémy.
Merci, Esther.
C'était super. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi et qu'il vous aura permis de passer un bon moment en ces temps de confinement. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille fort d'aller vous abonner au compte Instagram de Jérémy, @jérémybcn avec un Y. Vous y trouverez de l'inspiration à l'action au quotidien. Évidemment, je vous mets le lien dans la description, avec aussi celui de sa levée de fonds pour le reportage avec Annabelle et ceux vers les livres et articles dont il a parlé. Activiste revient la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez partager cet épisode, nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, des étoiles également, c'est ce qui nous fera connaître. Vous pouvez aussi vous abonner au flux des autres émissions, tuto Conquérir le monde et les impertinentes. À très vite!
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.